De retour à plan de match, dernière demi-heure de cette émission sportive sur les ondes de CJSO. Louis-Philippe Morin en votre compagnie. Si vous le voulez bien, on va parler sport électronique. Et là, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça mange en hiver du sport électronique. Ben, regardez autour de vous les jeunes qui sont passionnés de jeux d'ordinateur, de jeux sur console. Il y a de plus en plus de monde qui participe à des événements. Il y en avait un dernièrement qui s'appelait le Norton Arena qui s'est déroulé au Centre Bell de Montréal. Plus de 3 500 personnes se sont réunies là pour voir des athlètes venus de partout dans le monde, des équipes venues de partout dans le monde, participer à des jeux électroniques de guerre, de sport, de n'importe quoi. Et ça connaît beaucoup, beaucoup d'essor ici au Québec et au Canada. Nous, on a eu la chance de s'entretenir avec Patrick Pigeon, qui est président de la Fédération de sport électronique du Québec. Vous allez voir qu'il met les choses au clair et en tout cas, on peut dire que ça deviendra probablement un sport avant longtemps. En entrevue avec Patrick Pigeon, qui est président de la Fédération québécoise de sport électronique. Salut Patrick.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
J'avais envie de te parler, Patrick, parce que dernièrement, c'est tenu à Montréal ce qu'on appelait le Norton Arena. Est-ce que tu peux me parler de cet événement-là?
Oui, c'est un événement, une compétition de jeux vidéo, sport électronique, qui a eu lieu le 13 novembre au Centre Bell. C'était une première fois qu'on avait vraiment une compétition de niveau international avec des équipes professionnelles qui venaient d'à peu près, je dirais, partout dans le monde. Ça a été très intéressant, belle expérience. À peu près, je pense, 3 000 personnes qui ont assisté sur place à l'événement.
Mm-hmm. Ben quand même, tu me parles d'équipes professionnelles. Ces gens-là qui viennent de partout dans le monde gagnent leur vie en faisant ça?
Oui. À ce niveau-là, les joueurs sont payés, vont demeurer dans des maisons qu'on appelle gaming house, qui vont être vraiment des lieux de pratique où les gens vont résider à l'année longue.
Et finalement, c'est comme un vrai sport où ces gens-là s'entraînent et viennent montrer leur talent, finalement, une fois de temps en temps, dans des tournois.
Oui, c'est vraiment comme un sport. Ils vont avoir des managers, des coachs, des analystes qui vont les aider avant, après des parties. Bien souvent aussi une équipe, je dirais, médicale en arrière d'eux, des masseurs, des nutritionnistes.
Tant que ça, ah oui?
Vraiment, oui. Okay. C'est au même niveau que le sport professionnel, là. Beaucoup d'équipes de sport conventionnel investissent présentement dans le sport électronique aussi.
Okay.
On le voit en France avec les équipes de soccer, sinon aux États-Unis, surtout les équipes de basketball qui vont se lancer dans le sport électronique.
Ah bon, ben coudonc. Et donc, il y a de l'argent à faire là-dedans?
Oui, relativement.
OK.
Je dirais que ça dépend de la géographie et d'où est-ce qu'on est situé.
Parfait. Au Québec, ici, est-ce qu'il y a des joueurs de sport électronique qui gagnent leur vie avec ça?
Oui, quelques-uns. On a Stéphanie Miss Harvey, de Counter-Strike, championne du monde, qui présentement, c'est son emploi.
OK, ça, c'est c'est un jeu de guerre, ça, je pense, Counter-Strike?
Oui, un first-person shooter, c'est un jeu de tir, oui, exactement. Okay.
Donc, elle gagne sa vie avec ça. Elle fait le tour du monde?
Oui, pas mal. Ça va être beaucoup de compétitions en Europe, aux États-Unis. Ça beaucoup de voyages. Moi.
OK. Et toi, bon, tu es président de la Fédération québécoise de sport électronique. Vous, votre but, finalement, c'est de faire reconnaître le sport électronique.
Oui. Notre but premier, c'est de faire la promotion du sport électronique, faire découvrir au grand public. C'est certain qu'on vise une reconnaissance au niveau du gouvernement. On espère le plus rapidement possible.
Est-ce que vous y arrivez?
On continue à faire notre travail.
Est-ce que vous y arrivez à vouloir le faire reconnaître? Est-ce qu'on vous écoute ou on vous met de côté?
Oui, quand même une bonne réception. Déjà, on a réussi à avoir une lettre officielle de la Régie des jeux, des courses, des alcools, des jeux et des courses. Statuant que le sport électronique n'était pas sous leur juridiction, que c'est pas un jeu d'hasard. Donc, déjà, on a réussi à avoir accès à eux. On va voir avec le gouvernement.
Oui, parce qu'on s'en parlait tantôt à micro fermé. Le Québec était souvent exclu de compétitions comme ça ou de sport électronique à cause, justement, du fait que le Québec est soumis à des commissions comme ça.
Oui, on se retrouvait. Beaucoup de joueurs se sont vus bloqués, surtout pour... Je dirais au niveau des États-Unis avec MLG, Blizzard, quelquefois. Les Québécois ne pouvaient pas participer aux compétitions parce que les compagnies croyaient qu'il y avait des redevances à payer à la régie. Mais avec cette lettre-là, justement là, on va avoir les arguments pour lui prouver que non et que les Québécois peuvent partir.
OK. Et on, là, on parle des Québécois individuellement, mais là, présentement, la Fédération québécoise de sport électronique, c'est surtout des groupes qui sont réunis sous la férule de la Fédération?
Oui. Présentement, 5 associations étudiantes au niveau collégial et universitaire, 2 équipes de compétition. On n'est pas encore ouvert au grand public. On est encore en formation. On a beaucoup d'étapes à franchir avant d'être capable d'ouvrir les portes. Mais présentement, ça ressemble à ça. Association étudiante, équipe de compétition.
Donc, c'est pas inimaginable qu'un jour pourrait y avoir une équipe Québec qui nous représenterait à travers le monde dans diverses compétitions.
On l'espère. On l'espère. Ça, c'est sûr que c'est un de nos objectifs de développer des cyberathlètes québécois qui vont être en mesure d'aller jouer contre les meilleures équipes dans le monde.
Oui, parce que c'est ça, vous avez, vous voulez mettre sur pied un programme qui s'appelle Cyber Espoir, qui finalement essaierait de réunir les meilleurs joueurs de sport électronique dans un endroit et de faire en sorte que cette équipe-là devienne meilleure.
Oui, bien en fait, c'est d'aider les associations étudiantes à se développer, de là sortir probablement les meilleurs joueurs, leur permettre de continuer vers le niveau professionnel. Parce que présentement, les joueurs québécois n'ont aucun support, aucune structure, je dirais, qui leur permet de passer au niveau suivant. Il faut qu'ils fassent les démarches par eux-mêmes. Bien souvent, s'ils sont à l'université, il faut qu'ils travaillent. En plus d'étudier, en plus de jouer, ça ne permet pas d'évoluer, disons. C'est pas le meilleur contexte.
Okay. Et les joueurs internationaux, Patrick, qui sont reconnus, ils ont commencé sur YouTube. Comment ça fonctionne? Ils étaient bons, ils ont décidé de mettre des vidéos sur YouTube, ils se font aimer et là, on les invite à participer. Comment ça fonctionne?
Ça dépend. Les parcours sont assez variés. La plupart vont faire leurs preuves dans des compétitions. C'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'autres façons.
OK.
Ils vont commencer par gagner des tournois ou soit aller rejoindre une équipe qui va gagner des tournois. Par la suite, se faire recruter par des organisations semi-professionnelles.
Pour pouvoir évoluer dans ce domaine-là.
Oui, okay. C'est ça. Présentement, il n'y a pas de parcours tracé comme dans certains sports où est-ce que ça va être vraiment...
Ou est-ce que tu commences au niveau peewee, bantam, midget, comme au hockey, finalement, et t'évolues comme ça jusqu'à atteindre un jour, si tu l'espères, la Ligue nationale?
Non, c'est ça.
Ouais.
Présentement, c'est pas structuré de cette façon-là. C'est vraiment un jeune de... 15 ans pour être dans une équipe professionnelle. Il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de structure qui amène au niveau pro. C'est vraiment selon les performances, la chance à la limite d'être dans les bonnes équipes et de se faire voir au bon moment.
Parfait. Et là, il y avait le Norton Arena dernièrement au mois de novembre. Est-ce qu'il y a d'autres compétitions en sol québécois ou canadien qui s'en viennent?
Oui, on a l'ANETS et le DreamHack Montréal. Sont principalement les deux plus grosses compétitions. L'ANETS qui fête son 15e anniversaire cette année.
Est-ce qu'on verra des athlètes internationaux à ces compétitions-là?
Pour l'ANETS, peut-être. Il n'y a rien d'annoncé comme compétition internationale. Le DreamHack a une portion de Counter-Strike, un tournoi international, avec, je pense, 100 000 $ en prix.
Quand même,
donc,
quand même.
Oui, il devrait avoir des équipes... international pour le DreamHack. Avec des bourses de cette ampleur-là, ça attire.
Je comprends.
Du moins les équipes américaines, peut-être quelques équipes européennes.
Parfait. Ben écoute, Patrick, c'est très gentil d'avoir pris le temps de nous éclairer sur le sport électronique. Et puis, on souhaite longue vie à la Fédération québécoise de sport électronique. Merci.
Oui, bien, merci à vous.
Salut, Patrick. Merci donc à Patrick Pigeon de la Fédération québécoise de sport électronique. Et je ne sais pas si vous avez lu Le Devoir aujourd'hui, mais une bonne nouvelle, donc, il nous en parlait un petit peu dans l'entrevue. Les adeptes québécois de sport électronique vont maintenant pouvoir participer aux compétitions internationales. En tout cas, la Régie des alcools, des courses et des jeux a remis donc un papier comme quoi les joueurs québécois ne sont pas redevables à cet organisme-là et ne doivent pas payer de montant pour essayer de participer à différentes compétitions internationales. Là, on sait qu'il y a plusieurs universités aussi qui sont impliquées dans le sport électronique, entre autres l'Université de Montréal, l'Université McGill, Concordia et aussi l'École de technologie supérieure qui ont tous leur association étudiante dédiée au sport électronique. Qui sait? On verra peut-être bientôt un jeune Québécois s'illustrer sur des plateformes mondiales. On prend une pause et on vous revient dans un bloc totalement dédié au hockey dans la région, ici à Sorel-Tracy.